Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie. Comment tu vas, Baptiste Toutor?
Ça va ou quoi?
Ça va très bien, mec. Baptiste Toutor, célèbre joueur argentin.
Oui, je sais qui c'est. On me l'a fait. À l'époque, on me la faisait beaucoup.
À l'école.
Voilà, dans les années 90, on me la faisait beaucoup. Ça s'est beaucoup calmé depuis.
On n'est plus des jeunes.
Non, pas trop.
Mais aujourd'hui, les gars, on va pas parler de Baptiste Toutor. Aujourd'hui, on va vous parler du cinéma français en PLS. Après une tribune signée par des milliers d'acteurs et professionnels du milieu, insultant Vincent Bolloré, le patron de Canal+, qui n'est ni plus ni moins que le financeur principal du cinéma français, et qui a annoncé ne plus vouloir travailler avec ceux ayant signé cette tribune. Et puis ensuite, on réagira à la toute récente déclaration de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a publiquement clashé l'État américain ainsi que les taxes et les dépenses publiques. Puis on enchaînera justement avec un cas d'école dans l'actualité. Après avoir englouti plus de 350 millions d'euros d'aide publique sur fonds d'écologisme politique, l'entreprise d'hydrogène française Symbio laisse salariés et contribuables sur le carreau. Mais avant de commencer, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste?
Bah écoute, je disais tout à l'heure que les abonnés Patreon, ça monte, les gens sont satisfaits du contenu, donc je suis assez content. Donc voilà, je le répète pour ceux qui veulent venir s'abonner à Patreon, j'ai publié pas mal de vidéos, j'ai justement une vidéo qui va sortir là sur une revue de matos. La dernière vidéo dont j'avais parlé la dernière fois dans Radio Dixie, là, que je venais juste de poster sur les story time, l'histoire que je raconte, bah, a beaucoup beaucoup plu. Et tout à l'heure, on tourne le prochain épisode de No Country for Walkmen, qui est mon second podcast que j'ai sur Patreon, qui est vraiment le... Voilà. Et là, il y a un épisode qui s'annonce vraiment drôle, parce que je leur ai préparé un jeu.
Pire que les autres.
Franchement, il y a des trucs, je pense que c'est la première fois de l'histoire de No Country for Old Men qu'il y a un truc que je vais devoir flouter à l'écran. C'est pour te dire le niveau du truc. C'est la première fois, parce que c'est vraiment un truc où il y a zéro censure. Ou là, mais comme là, il y a des trucs un peu perso, ça va devoir être fouté. En tout cas, il y a du lourd qui arrive. C'est un podcast 0% censure, 100% déconne, qui est sur une fois par mois, que les gens adorent. Et je tiens à le redire, il n'y a pas d'engagement sur les abonnements Patreon. Donc, vous pouvez venir tester. Ça coûte 5 €. Et pour 5 €, vous vous abonnez. Pendant un mois, vous avez accès à toutes les vidéos de la chaîne. Il y en a beaucoup parce que je poste aussi d'autres vidéos. Comme je dis, j'ai le podcast mensuel, j'ai des interviews. Voilà, j'ai ce genre de choses, les story time, etc. Mais j'ai aussi des vlogs, des vidéos de chasse, des vidéos de pêche, des vidéos de tir, plein de choses. Voilà, j'essaie de faire du contenu varié et qui me plaît vraiment et qui plaît à ma communauté. Et donc, pendant un mois, vous pouvez tout tester. Si ça ne vous plaît pas, vous désabonnez. Voilà, vous aurez payé juste 5 €. Donc, ça vaut le coup, surtout avec le peu de contenu qu'il y a sur YouTube. Souvent, les gens se plaignent qu'il y a peu de contenu de notre bord, etc. Peu de contenu comme je faisais sur Bench & Cigar ou quoi. Bah, là, c'est l'occasion de le retrouver. Et pareil sur le Patreon du Guy, sur lequel vous avez beaucoup de choses. Pas mal, il fait beaucoup de contenu, beaucoup de podcasts, des interviews, etc. Les vidéos, les vlogs avec ses abonnés, les rediffs de Radio Dixie en avant-première. Voilà, il y a plein de choses aussi. Et encore une fois, c'est sans engagement. Donc, n'hésitez pas, ça nous soutient directement. Donc voilà, c'est sûr que ça nous booste pour faire du contenu. Et surtout le fait de ne pas avoir de censure, pas avoir d'algorithme, rien du tout. Donc voilà. Là, moi, mes abonnés, ils grimpent. Les gens restent abonnés, ça leur plaît. Donc, je suis très content. Donc voilà, n'hésitez pas à passer le cap. Et bien sûr, je le vois, les gens le demandent. La pub pour le dire. Voilà, donc regardez les vidéos Patreon en mangeant du Texas Jerky. Voilà. C'est le snack le plus protéiné du marché. C'est le snack le plus goûtu. Voilà, mangez pas des pop-corn, mangez pas des gâteaux, mangez du jerky, viande de bœuf séchée, recette texane, viande de porc séchée, recette texane. Il y a le porc, il y a le bœuf. On a fait les recettes nous-mêmes. C'est fabriqué par un artisan en France avec des vaches françaises. Donc, vous tapez même pas le coût d'importation. Et voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas de conservateur, pas de saloperie. Ça se conserve super bien parce que c'est déshydraté. J'en ai commandé encore 3 sachets de jerky. Ça part trop vite, vous voyez. Regardez, je ne vous mens pas. Tous les gens, c'est vrai que les retours sont excellents. Là, pour le coup, on ne peut pas faire mieux sur le Texas Jerky. À chaque fois, les gens me disent « j'adore ». Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut voir les clients comment ils recommandent. Tu sais, les gens qui nous commandent, c'est quasiment jamais une commande comme ça. Il y a toujours, ils recommandent très régulièrement parce que ça ne se trouve pas dans le marché. Le seul jerky que vous trouvez dans le marché, c'est industriel dégueulasse. Ça n'a pas du tout le même goût que ce qu'on fait. Et il y a plein de gens d'ailleurs qui croient ne pas aimer le jerky parce qu'ils ont goûté des merdes industrielles. C'est très différent. Comme le saucisson, hein. Si vous mangez du Justin Bridoux industriel, du Eco Plus et tout, ça n'a pas le goût d'un saucisson artisanal. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pareil pour le jerky. Donc, n'hésitez pas, c'est sur jerkytexas.fr. Et voilà, je teste. À toi, Lucas.
Parfait, mec. Si vous mangez du Texas Jerky en écoutant Radio Dixie, en regardant nos Patreons, en faisant du sport, vous êtes dans le 1% des gars les plus solides de la planète. Et puis, sinon, c'est génial, mec. Tu as trouvé le meilleur produit. On peut pas faire mieux pour un influenceur de notre catégorie. Le Texas Jerky, c'est le summum du summum.
C'est le summum.
Parce que moi, de mon côté, je vais vous parler rapidement, vous rappeler rapidement mes accompagnements pour l'expatriation et ou l'investissement au Paraguay, que ce soit pour obtenir votre carte de résidence ou acheter un terrain ou un appartement ici, afin de sortir votre argent d'Europe. Vous pouvez m'écrire à contact@leguise.com. De même, si vous êtes intéressé par mes appels vidéo de consultation pour vous orienter vers votre liberté fiscale, j'ai déjà aidé des dizaines de personnes en quelques mois et c'est très satisfaisant. Mais aujourd'hui, pour changer, je voulais vous montrer de la merch que je viens de recevoir. Donc là, vous avez la casquette que j'ai sur la tête, une casquette avec le serpent libertarien, la célèbre casquette Pinochet avec le drapeau du Chili sur lequel on a remplacé l'étoile par l'hélicoptère en hommage au vol de la mort. Vous avez aussi le t-shirt avec évidemment la croix de Jérusalem. Vous avez un t-shirt avec Don't Tread on Me et derrière un énorme serpent libertarien. Vous avez évidemment le serpent libertarien basique devant pour ceux qui préfèrent les trucs simples. Donc tout ça, c'est sur leguise.com. Et puis, alors on a un sujet qui résume parfaitement toute la puérilité de la gauche culturelle française. Et je crois, Baptiste, que tu as très envie d'y réagir, moi aussi d'ailleurs.
Oui.
Voilà ce qu'il s'est passé.
Allez,
à la veille.
résume-nous tout ça.
À la veille du Festival de Cannes, Libération, encore un truc financé aux subventions publiques, évidemment, publie une tribune signée par un collectif qui s'appelle Zappé Bolloré, avec en bas plus de 600 professionnels du cinéma, dont pour les parasites les plus connus, Juliette Binoche, Adèle Haenel, et pour ton plus grand plaisir, Baptiste, notre bon vieux Jean-Pascal Zadi, celui qui a fait le grand déplacement, magnifique comédie spatiale panafricaine, qui avait fait une moyenne de 6 spectateurs par séance. Bref, qu'est-ce qu'il reproche à Bolloré dans cette tribune? Le fait que Canal+ ait acquis 34% du capital d'UGC, ce qui permettrait au groupe de contrôler la totalité de la chaîne de fabrication des films, et évidemment Bolloré, qui ne cacherait pas son projet civilisationnel réactionnaire d'extrême droite et représenterait une menace de prise de contrôle fasciste sur l'image collective, pour reprendre les termes de la tribune. Un cinéaste, Arthur Harari, cité par le journaliste de Libé, est même allé plus loin. Il appelle Bolloré un crypto-fasciste plus puissant capitaliste de France, rien que ça. Et c'est là qu'on voit que ce sont des énormes pourris gâtés, sans aucune notion de responsabilité. Pourquoi? Car Canal+, c'est le premier financeur du cinéma français, avec plus de 163 millions d'euros injectés dans la production l'année dernière. Et là où ça devient intéressant, c'est que la semaine dernière, le directeur général de Canal+, Maxime Saada, a annoncé qu'il ne souhaitait plus que Canal+ travaille avec les signataires de cette tribune. Et ça les mettrait dans une mer de noir. Parce que pour finir, c'est vraiment jouissif, car ça a évidemment fait pleurer tous les parasites. Libération a titré un dimanche de représailles. L'humanité gueule contre l'OPA de Bolloré sur nos imaginaires. Waouh, c'est poétique. T'as jusqu'à la ministre de la Culture qui vient expliquer que la réaction de Canal+ est disproportionnée. C'est monté haut, cette histoire, sans compter les réactions des professionnels du cinéma. Donc, si je comprends bien, Baptiste, ils insultent leur principal financeur de fascistes et maintenant ils sont surpris de la réaction.
Non, mais là, il faut décortiquer l'info parce que chaque couche est dramatique. Non, non, mais vraiment, ce pays, mais de. Enfin, la mentalité de tous les là de tous les protagonistes est vraiment catastrophique quoi. On va commencer par la base, ok? On va commencer par Bolloré. Prenons Bolloré déjà. Donc Bolloré, ok, il est catho, ok, il est patriote, c'est ce qu'il dit. En tout cas, il se revendique, etc. Mais il finance des films anti-France, très clairement.
Ouais.
Donc déjà, c'est problématique. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire, Bolloré, ok, d'accord, on peut en dire, ouais, on sépare le business des idées, etc. Mais il finance des films, les films de Pascal Zadi et d'autres, des films panafricanistes, des films qui sont littéralement des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs, de ce qu'il pense du bien de la France. Moi, désolé, mais déjà, je ne trouve pas ça correct. Et les histoires de, il faut. Je veux dire, que tu finances des trucs que tu n'aimes pas, ça, je peux comprendre. Mais à un moment, des choses antichrétiennes, etc., ou en tout cas qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes et tout, c'est pas normal. Donc déjà, prenons lui. Il y a lui, ok? Voilà. C'est une première
D'ailleurs, fois. D'ailleurs, vous le voyez, les gars, pour sur le Canal+, il y a plein de films wokistes, écologisme, voilà. Féminisme, anticapitalisme, etc.
Voilà. Donc, voilà. Il finance, il donne énormément d'argent à des énormes gauchistes. Il rend des énormes gauchistes et des mecs qui sont vraiment des ordures très riches. Bon. Première chose. Donc, visiblement, il ne met absolument pas ses convictions politiques en pratique. Il s'est fait, il a fait ses news, voilà, c'est tout. Et c'est tout pour le coup, tu vois. Il n'aimait pas, il continue à financer tout. Donc, ils n'ont aucune raison de se plaindre, littéralement. Puisque malgré le fait qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, qu'il ait des idées inverses, il ne fait pas de distinction. Il finance les films. Voilà. Donc ça, on, c'est voilà. Donc, ils ont littéralement, ces gens-là n'ont pas de raison de se plaindre.
Il y a un truc à prendre en compte, mec, hein, par rapport à ça, c'est qu'à mon avis, et le Bolloré, et puis je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une merde de faire ça. Mais c'est que.
Non, mais après, finance, c'est une merde, mais.
Bah, non, enfin, je sais pas si c'est lui qui décide directement, déjà.
Voilà.
Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est des films aussi qui sont en partie financés par Canal+, mais qui doivent aussi toucher des subventions publiques.
Et ah oui,
forcément, il faut faire plaisir à l'État, il faut traiter les sujets qui font plaisir à
des subventions. Tout à fait, etc. Tout à fait. Non, mais c'est le monde du cinéma. Mais donc, pour le coup, ils n'ont pas de raison de se plaindre, puisqu'il n'a pas arrêté de financer leurs films de merde ou je ne sais pas quoi quand il a pris Canal+. Donc, voilà. Ils se plaignent. Normalement, si tu as des convictions et vraiment que tu penses que Bolloré est un crypto-fasciste, etc., d'accord, ben, refuse de travailler avec lui. C'est eux. Au lieu de faire une tribune, elle sert à quoi cette tribune? C'est pour dire quoi? Dites juste, ben, nous, depuis qu'ils ont racheté UIGC, etc., on ne travaillera plus avec eux. Voilà. Moi, je refuse de travailler avec un crypto-fasciste. Très bien, pas de souci, il n'y a aucun problème à ça. Non. Non, parce que comme c'est des grosses merdes, c'est tous des tapins, parce que c'est tous des tapins. C'est donne-moi ton argent, mais par contre, mais je ne suis pas d'accord, mais continue à me payer, patron. Hein. C'est des tapins, c'est tous des tapins, tous des putes du début jusqu'à la fin. Non, on veut juste que le patron il change, mais que l'argent il continue à rentrer dans nos poches, quoi, en gros. Mais on n'est pas d'accord, tu vois, le patron il va se faire foutre, mais il continue à nous donner notre billet. Donc des grosses putes. Donc, au bout d'un moment, le mec, il en a marre de se faire insulter. Le patron de Canal, Saada, là, il dit, bah, écoutez, puisque vraiment vous nous détestez, il n'y a pas de problème, on va arrêter de payer. Voilà, on va arrêter de travailler avec vous. Et là, quoi? Mais non, c'est dégueulasse. Et tu as le rétro-pédalage aussi de je ne sais pas combien d'acteurs qui derrière commence à dire ah non mais moi attention hein, j'ai pas critiqué Canal et tout, il y a Batman de mecs qui ont commencé à dire ouais mais en fait dans ces milieux là tu sais on vient, on te fait signer des tribunes mais en fait on te met un peu la pression et tout, ce qui est probablement vrai aussi hein, on va pas se mentir, je pense qu'il y a un paquet d'acteurs, ils sont pris en étau, ils ont pas le choix du tout, les réals, les gros trucs tu vois, leur disent allez il faut mettre ton nom là dessus ça va faire bien parce que sinon on va dire que tu soutiens Bolloré,
ils ont le choix mais ils font passer leur carrière avant leurs principes
dans ce milieu là non mais ils ont pas spécialement de principes, je pense qu'il y en a ils s'en branlent. Et ils se disent, ouais, okay, de toute façon, ouais. Si je signe pas, après, ils vont plus tourner de film avec moi, tu vois. On va me faire mettre à l'écart, donc je pense qu'on leur met aussi la pression. Donc voilà, tu vois. Et là, tout le monde pleure. Et là, ce qui est incroyable, c'est que tu as une vague d'opinion, de en mode, ouais, c'est dégueulasse et tout. Mais comment ça, c'est dégueulasse? C'est un groupe privé. Tu as la ministre qui dit, ouais, la réaction est pas normale. Tout. Mais frérot, on te demande pas ton avis. Personne n'a donné son avis sur le sujet. Comment ça? C'est un groupe privé, ils financent pas. C'est eux qui décident. C'est pas une association, c'est pas de l'argent public, c'est un groupe privé qui décide de produire des films ou pas les produire. Ils ne veulent pas les produire, ils les produisent pas. Enfin, je veux dire, à un moment, les gars.
Ils passent leur temps à prendre l'argent des Français pour financer ce que bon leur semble. Donc pour eux, ça n'existe pas la propriété privée.
Mais voilà, c'est incroyable. Et alors, moi, j'ai vu Zemmour sur un plateau et j'ai trouvé, franchement, j'ai été frustré. J'ai trouvé que c'est très mal défendu. Parce qu'en fait, les gens ont dit, ouais, vous défendez, vous êtes contre la cancel culture. Et là, par contre, vous défendez. Et il s'est très mal défendu. Mais parce qu'il n'a pas expliqué un principe de base, ça n'a rien à voir avec la cancel culture. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas du tout de la même chose. Les gens qui font cet argument sont soit de mauvaise foi, soit des idiots qui ne comprennent pas le principe de cancel culture. La cancel culture, c'est Bolloré produit ou n'importe qui produit un film. J'aime pas, je suis pas d'accord avec ce film, je suis un agent extérieur à ça. Je dis, on doit interdire ce film, il ne doit pas être produit. C'est ça la cancel culture. C'est quand l'État ou une association quoi veut annuler la sortie de quelque chose ou censurer la sortie de quelque chose qui ne les concerne pas, dans lequel ils ne sont pas des agents dans lesquels ils n'ont pas de part ni rien du tout. La cancel culture, ce n'est pas un patron qui dit bah, « ça, je ne vais pas le faire ». Ça n'a aucun sens. Il y a une différence entre l'État dit « on interdit les spaghettis bolognaises en France » et un mec qui a un restaurant qui dit « ah oh, bah les spaghettis bolo, on va les retirer de la carte bah, ». Oui, vous comprenez la différence quand même. C'est quand même un truc simplissime, quoi. Comment il faut être attardé à ce point pour pas comprendre la différence entre cancel quelque chose non mais, et un mec qui a plus envie de faire un truc avec son propre argent. Oui. Non mais vous voyez la différence, c'est quand même incroyable. Un restaurateur qui pour des raisons propres dit bah moi les spaghettis bolo j'aime pas, je veux les retirer de la carte, c'est pas la même chose qu'une association qui dit hey, ce restaurant sert des spaghettis bolo, il faut l'interdire. Putain, mais comment les gens font pour pas comprendre la différence? Comme je dis, il y en a beaucoup qui sont de mauvaise foi. Mais c'est dommage, c'est qu'on voit. Enfin, même Zemmour, il a pas été capable de mettre ça vraiment à plat dans cette émission. Je sais plus où il était, tu vois. J'ai trouvé
ça intéressant parce que en fait, la cancel culture, pour moi, mec, quand c'est pas géré par l'État, quand c'est juste des gens qui veulent pas consommer quelque chose qui correspond pas à leurs principes, moi, ça me dérange pas du tout.
Bien sûr, c'est pas de la cancel culture, ça, de pas vouloir consommer un truc.
Je sais pas par définition si ça en est ou pas.
Mais non, cancel culture, c'est quand tu veux le cancel. C'est-à-dire cancel, ça veut dire annuler. D'accord ? Ne pas aller au cinéma, c'est pas la même chose que dire ce film doit pas être diffusé.
Ah ok, c'est intéressant parce que cancel, c'est quand tu fais une action.
Cancel culture, ça veut dire annuler.
Quand tu fais une action pour saboter un projet alors.
Ben voilà, quand tu dis il faut pas aller voir ça, il faut que ce film soit interdit, c'est machin, ça c'est la cancel culture. Tu vois, il faut le boycott pour forcer la marque.
Quand tous les gauchistes se regroupent et disent on va plus aller à consommer dans cette entreprise, pour toi ça rentre pas dans le spectre de la cancel culture.
Tout dépend. S'ils disent juste n'y allez pas, mais s'ils disent il faut un boycott national et ils font de l'appui, ils demandent aux gens de boycotter pour que la chaîne, tu vois, parce que généralement ils disent pas juste faut pas aller voir, ils disent on va pas y aller jusqu'à ce qu'ils retirent le film ou un truc comme ça. C'est ça la cancel culture, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Mais encore une fois,
ça tu vois, par exemple, ça me dérange pas.
Non, mais peu importe. Mais
tant que la force de l'État n'est pas utilisée, tant que c'est vraiment des gens qui veulent pas consommer un truc.
Voilà. Enfin, bon, peu importe, ça n'a rien à voir, entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec le patron lui-même qui décide parce qu'il aime pas un truc de pas diffuser ou pas investir. C'est des choses qui ont rien à voir.
La cancel culture, c'est ce que vient de vous décrire Baptiste. Moi, personnellement, j'ai rien contre, à part quand l'État utilise sa force pour venir intervenir. Mais là, en ce qui concerne des employés et des employeurs, on n'est pas dans la cancel culture du tout. C'est pas du tout la définition qu'on en a.
Ça n'a rien à voir. C'est vraiment.
Le Monde a analysé les génériques des films français des 5 dernières années, le journal Le Monde. Et les signataires de la tribune apparaissent au générique de plus de la moitié des films produits en France, même si on prend que les 600 signataires initiaux de la tribune. Donc il est très difficile de faire carrière sans avoir travaillé directement ou indirectement sur des projets financés par Canal+.
Ah oui, non, mais évidemment, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il pleure. C'est pour ça qu'il pleure. Même Pascal Zadi, Jean-Pascal Zadi, là, il a fait un tweet et tout en disant non, Canal+, moi, ils m'ont toujours soutenu. Tu vois, je suis content de travailler avec eux. Bah oui, parce que qui va financer leur film de merde qui marche pas? C'est ça aussi.
Bah oui. L'État/Canal+. Et au final, là, on est quand même sur encore du beau socialisme de connivence entre Canal+, qui finance des films en touchant des subventions de l'État pour ensuite aller rentabiliser ça sur leur chaîne privée. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On va pouvoir en reparler à un autre moment. Parce que le fond du problème, c'est que le cinéma français, c'est une industrie sous perfusion d'argent public et d'argent privé forcé. C'est le CNC, les obligations de financement, la chronologie des médias. Tout est réglementé, tout est subventionné, tout est artificiel. Parce que même lorsque Canal+, subventionne, c'est des accords avec l'État. C'est contrôlé tout ça. Et dans cet environnement sous cloche, les gens qui en bénéficient se croient légitimes de cracher sur ceux qui amènent du beurre dans les épinards. Mais la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et la Fédération CGT du spectacle ont assigné au civil devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Canal+ pour discrimination. À la suite des propos tenus par Maxime Sada. Donc, sachant qu'on est dans un pays qui ne respecte pas la propriété privée, je ne sais pas où ça va mener tout ça.
Bah, c'est facile, de toute façon, la parade est nette. Parce qu'en fait, comment tu définis que c'est quand ils refusent, parce que les projets, ils les acceptent, ils les refusent, on est d'accord, tu vois. Comment tu définis qu'un projet a été refusé juste parce que les mecs étaient sur la liste? Tu peux pas le prouver. Donc si demain ils perdent au pénal, ils disent ok, pas de souci, ils refusent juste tous les projets en disant bah non, mais on trouve que ça va pas marcher, non, ça a rien à voir, mais juste on n'aime pas. Voilà.
Bah ça, c'est si la justice est impartiale et que c'est pas des juges rouges qui tranchent.
Oui, mais les juges peuvent pas les obliger en disant vous allez financer tous les projets, tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent
Enfin.
dire c'est vous n'avez pas le droit de pas financer sous le motif que ces gens ont fait là, on sont sur la liste. Donc ça, ce serait s'ils perdent, tu vois, ils perdent, et donc voilà, non, vous n'avez pas le droit, c'est pas parce qu'ils sont sur la liste que vous n'allez pas les financer. Et eux vont dire d'accord, pas de souci, on va quand même les financer, et puis juste après refuser les projets sous d'autres excuses.
Ouais,
D'ailleurs,
c'est
tu ne peux
ça.
pas contrôler, tu vois. Donc
Après, le
c'est
truc, c'est
bidon.
comme, par exemple, toi, tu es une entreprise avec 5 000 employés et il n'y a aucun noir dans ton entreprise. Les juges, ils vont quand même te condamner, à mon avis.
Ouais, mais là, il y a une histoire de quota, il y a un truc qui est chiffré, tu vois.
Ouais, et donc, mais en fait, si tu vois, s'ils revendent devant le juge et qu'ils prouvent que sur les
Mais
120 000 films,
je suis même
il y en
pas
a
sûr, hein, parce
plus.
qu'en France, regarde, tu vas chez Libération, il y a aucun noir, il y en a plein des entreprises où il y a aucun noir. Non, mais il y en a plein des entreprises où il y a aucun noir. Tant qu'il n'y a pas une loi dessus, je pense pas. Hein, tu
C'est
vois.
pour ça qu'il faut un grand nombre. Il faut être
Faut
sur des
qu'ils
milliers
prouvent que tu
d'employés.
discrimines sur cette sujet, sur cette raison. Est-ce que tu
Bah
vois,
écoute,
il n'y a pas de preuve.
tu as plus confiance en la justice française que moi,
Non,
déjà.
justement, moi j'ai pas confiance en la justice. C'est-à-dire que je pense que la justice, ils peuvent leur dire que c'est faux, mais après, est-ce qu'ils ont les moyens d'appliquer le truc? C'est ça. Tu penses que la justice va venir, elle va dire maintenant vous financez tous les films de Jean-Pascal Zadi, peu importe le truc. Bah non, ils peuvent pas
Ouais.
faire ça.
Ça se traduit
Bah,
par des saisies, par des
je sais pas.
emprisonnements, à la
Je sais
force,
pas.
quoi, au final. Mais bon, on verra ce que ça donne. On n'a pas de boule de cristal, t'as bien raison, ça sert à rien de s'étaler là-dessus. Ce qui m'a étonné, mec, c'est l'explosion post-réaction de Canal+, de Saada, qui a annoncé ne plus vouloir travailler avec eux. Il y a maintenant 3 500 signatures, dont des stars internationales comme Ken Loach ou Javier Bardem. C'est assez intéressant.
Aucune idée de qui c'est.
Ils sont en mode croisade contre le méchant fasciste,
Ouais,
contre
ok, allez-y,
tout.
hein, allez-y.
Ouais.
Ça les occupe.
Ouais. Mais c'est ça.
Allez.
Moi, je pense qu'aux États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Mais en France, je pense qu'entre le ministre de la
Non,
Culture,
mais attends, aux
l'économie morcelée avec
États-Unis, ils font pas ce
l'État.
qu'ils veulent, hein. Hollywood, c'est complètement gangréné aussi, hein. C'est très
Ouais, mais
compliqué,
t'as pas
Hollywood,
l'État
hein.
fédéral français, t'as pas le ministre de la Culture qui va venir réagir en mode c'est pas bien parce qu'ils veulent pas travailler avec ces gens-là.
Non, non, c'est différemment, mais c'est le milieu du cinéma, c'est un milieu aussi compliqué hein, aux États-Unis. Hein. Moins, mais aussi. C'est différent parce que c'est des systèmes qui fonctionnent différemment, comme tu dis, c'est pas perfusé, etc. Donc c'est un peu différent, tu vois. Mais ça a été
Mais ce qui est
complètement
bien, c'est qu'aux
gangréné aussi.
États-Unis, t'as quand même certains grands blockbusters de droite qui sortent de temps en temps.
Ouais, encore, ouais,
Alors qu'en France,
encore.
c'est inimaginable, malheureusement, d'avoir un gros film,
Ouais,
grosse production
oui.
française de droite, qui partage nos valeurs. Mais voilà, je sais pas s'il y a d'autres trucs à rajouter par rapport à tous ces
Non, non,
chialeurs.
c'est bon. Non.
Voilà. Parce que maintenant, j'aimerais qu'on réagisse aux tout récents propos de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, à propos du rôle des entreprises privées, des taxes et des dépenses publiques. Je vous ai fait traduire sa voix en français avec une IA pour que ceux qui nous écoutent puissent suivre aussi.
Si je fais bien mon travail, la valeur apportée à la société et à la civilisation par mes entreprises à but lucratif sera bien, bien supérieure au bien que je peux faire par mes dons caritatifs. Et je pense que c'est un point important à souligner, car les gens l'oublient ou parfois ne le voient pas. Quand vous créez quelque chose comme Amazon et que vous permettez d'économiser du temps, je reçois tout le temps des lettres de jeunes mamans qui me disent, par exemple, je n'ai aucune idée de ce que je ferais en ce moment si je n'avais pas Amazon. Merci. Ou ce que nous avons fait pendant la pandémie, lorsque les gens ont vraiment pu voir à quel point le service que nous leur rendions était essentiel. Et d'ailleurs, si on est vraiment honnête à ce sujet, nous n'avons pas de problème de revenus dans ce pays. Nous avons déjà le système fiscal le plus progressif au monde. Le 1% des contribuables les plus riches paie 40% de toutes les recettes fiscales. La moitié inférieure ne paie que 3%. Nous avons déjà cela et je pense que cela devrait être zéro. Ça ne devrait pas être 3%.
Voilà, bah une deuxième partie, mais je te laisse réagir à celle-ci en premier.
Bon, toute la partie sur Amazon, c'est un peu du bullshit. Le mec, il te vend Amazon, genre. Enfin, je veux dire. Oui, on contribue à la société, on fait une société meilleure parce que les gens peuvent délivrer des trucs chez eux. Non, mais c'est un très bon service, hein. Je critique pas Amazon, mais il ne faut pas exagérer non plus. T'sais, le mec, il n'a pas fait le vaccin contre la rage, tu vois. Genre, toutes ces pauvres mamans qui me disent comment je ferais si j'avais pas Amazon? Bah, ça va, pendant les 200 000 dernières années, elles ont survécu, tu vois. Donc,
Gros,
bon,
il dit qu'ils
elles lèveraient
amélioraient
leur
tout.
gros cul, elles prendraient leur gosse et elles iraient acheter au magasin. Et elle consommerait moins de saloperies. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter ça. J'ai des gosses, donc je peux pas aller faire les courses. Comment elles ont fait, nos darons? Bon,
Gros,
voilà. Donc, ça, je suis
c'est des
désolé, mais
améliorations.
ça. Oui, voilà, c'est des améliorations. Mais encore une fois, c'est des améliorations. Mais bon, faut pas vendre le truc non plus en mode on a fait un truc pour l'humanité, tu sais, avancer. Faut pas exagérer. Après, ce qu'il dit sur sur les impôts, je comprends pas en fait.
En gros, ce qu'il dit, c'est que.
Non, mais il dit que les plus riches gagnent 40% et les plus pauvres 3%, mais ils devraient payer 0%. Donc, il pense qu'ils devraient payer tous les impôts de tout le monde. Mais...
En gros, ce qu'il dit, c'est. En fait, c'est un raisonnement assez intéressant dans le sens où tout impôt, c'est de la merde à ces niveaux-là. Mais ce qu'il dit, c'est que
c'est
la
pas pauvre ce qu'il infirmière. Dit, là.
Non, non, mais ça, c'est moi ce que
il
je dis.
Il trouve que le système, il est bien, lui. Donc, il est content apparemment de payer 40% des. Mais c'est ce qu'il dit, là, qu'on entend.
Oui. En fait, là où il met le point, c'est que pour lui, c'est absurde que quelqu'un qui a une infirmière ou un plombier de bas niveau qui galère déjà.
Ah oui, il paye des impôts.
L'État lui vole 1 000-1 500 $ par mois.
Et oui, que ça, c'est une aberration. Oui. Mais bon, il faut bien que quelqu'un, à un moment, même. Il y a une deuxième partie, tu dis, où il parle de réduire des dépenses ou un truc.
Il y a une deuxième partie, mais on va l'écouter juste
Regardons
après.
Ça alors, parce que sinon, là, je pense qu'il n'y a rien à commenter pour le moment. Que ça veut rien dire.
Je voulais commenter un petit truc par rapport à ça, mec. Parce que contrairement à ce que tu dis par rapport à Amazon, moi j'ai un avis un peu différent. Okay, bon, je ne dis pas qu'ils sont en train de sauver l'humanité, évidemment. Mais les entreprises privées, elles sont bien plus utiles à la société car elles comblent un réel besoin. Et je pense que c'est là où il va en venir. C'est que la preuve, c'est que les gens, ils sont prêts à payer pour avoir leurs besoins comblés à travers les produits et services de ces entreprises privées. Et ça, contrairement aux services publics qui sont décidés par des connards en costume cravate. Mais tu vois, c'est un point intéressant ce qu'il nous dit. C'est que pour lui.
Non, mais il dit ce que je fais à travers d'Amazon, c'est plus que si je faisais des trucs caritatifs. Non.
Non, c'est pas ça qu'il dit, mec.
C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit le bien que j'amène à l'humanité. Je te le cite mot pour mot. Le bien que j'amène à l'humanité est bien supérieur à celui que si j'avais fait, que j'aurais pu faire à travers des œuvres caritatives.
C'est pas exactement ça, mec. Non, sa phrase, c'est. Non, mais sa phrase, c'est que c'est pas du conditionnel. Il dit ce qu'il fait avec des œuvres caritatives, ça apporte bien moins à l'humanité que ce qu'il fait avec son travail.
Je crois pas que c'est ça qu'il a dit.
C'est vrai, tu veux qu'on réécoute ?
Ouais, et après, tout dépend ce qu'il fait en caritatif, encore une fois. Hein. Mais je veux dire. Moi, je suis désolé, mais arrêtez, Amazon, ça n'apporte pas du bien à l'humanité ou je sais pas quoi, ça apporte rien du tout. C'est un service de livraison, détendez-nous. Je veux dire, livrer un truc à domicile, c'est ça rien. Oui, c'est un service privé, c'est un bon service. Moi, j'aime beaucoup Amazon, je trouve que c'est très bien, mais ne vendons pas ça comme un truc caritatif. Donc, c'est mieux. Donc, tu vas me dire que, par exemple, Amazon, ça fait plus que quand tu fais dans des œuvres caritatives qu'investis, je sais pas, moi, dans la recherche pour soigner le cancer des gosses. Ou des orphelinats ou des choses comme ça, c'est moins bien que de pouvoir livrer un rouleau à pâtisserie à la daronne qui est chez elle. Tu vois. C'est comme si moi je disais, le service que je fournis avec chasseautexas.com, il est bien mieux que ce que je fais avec SOS Maman Solo. Bah non, frérot, non, n'importe quoi.
C'est là où en fait.
Tu penses que ce que je fais avec chasseautexas.com, c'est mieux pour l'humanité que ce que je fais avec SOS Maman Solo ?
Je vais t'expliquer pour nuancer ton propos. C'est que toutes ces entreprises-là. Laisse-moi juste nuancer le propos en 30 secondes, ok ? Toutes ces entreprises-là, toutes ces innovations technologiques, ces améliorations du quotidien, ces gains de temps, ces gains d'efficacité, c'est des gains de productivité qui permettent à l'ensemble de la société de faire donc des gains de productivité et de vivre mieux dans son ensemble. C'est grâce à ces entreprises, à ces avancées technologiques qu'on fait qu'on est plus efficace, qu'on fait plus de gains de productivité, qu'on peut avoir une meilleure alimentation, une meilleure santé, de meilleurs services in fine. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, mais je vois pas ce que je veux dire. Si, je viens à ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est le propos que tu tiens, il est tellement général que c'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui utilisent Amazon pour commander des merdes qui détruisent leur santé qu'ils n'auraient pas commandé si ce n'était pas possible d'être livré. Il y a des gens qui décident de rester. Non, mais il y a des gens pour qui c'est vrai et il y a des millions, voire des milliards de personnes pour qui ce n'est pas vrai. Et probablement autant. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui utilisent Amazon pour de mauvaises raisons que de gens qui l'utilisent pour de bonnes raisons. Quand il dit ouais les mères de famille elles sont grâce à ça machin, c'est pas plus productif, tu vois. Quand il dit pendant le confinement par exemple, elles utilisent pas leur temps pour être plus productives ou je sais pas quoi. C'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui font moins d'activité physique par exemple, tu vois. Il y a des gens qui sortent plus de chez eux
ils ont probablement plus de temps pour s'occuper de leur famille, pour faire du sport ou faire d'autres choses. Oui, mais au moins tu as le choix. In fine, en fait, elle est là, la création de richesse, la création de valeur.
Je suis pas en train de te dire qu'Amazon, c'est pas bien, frérot. Je te dis que tu ne peux pas faire une généralité en disant que ça aide l'humanité plus que les œuvres caritatives parce que c'est du gain de temps pour la productivité,
mais
etc.
Si, mec, Parce qu'il vaut mieux une société où il n'y a que des entreprises privées comme ça, à choisir entre une société où il n'y a que des offres caritatives ou que des entreprises privées. Déjà, bien sans sûr. Ces entreprises privées, il n'y aurait pas de possibilité d'offres caritatives.
Tout à fait d'accord, mais ce n'est pas son propos. Ce n'est pas son propos. Là, toi, tu développes tout un discours. Mais non, mais parce que tu te rends compte qu'il a fait deux phrases et toi, tu es obligé de faire tout un discours entier pour l'expliquer. Donc, c'est bien la preuve que. C'est pour ça que je t'ai dit, il faudrait regarder la deuxième partie. Parce que là, juste ce qu'il dit, ce n'est pas suffisant. Dire juste. Amazon, c'est un service pour l'humanité, point, sans argumenter. Il n'apporte aucun argument. Tout ce que tu viens de faire là comme argumentation, il ne l'a pas fait. Il n'a pas dit tout ça. Il a juste dit Amazon, c'est un super service pour l'humanité. Il a cité deux exemples qui sont des exemples qui ne marchent pas vraiment. Les mères de famille, alors que bon, elles se sont toujours débrouillées très bien sans ça. Et la plupart, elles consomment aujourd'hui des merdes qu'elles n'auraient jamais consommées avant. Et le confinement qui, de facto, n'aurait peut-être pas pu exister s'il n'y avait pas eu ces services-là. Le confinement qui n'aurait pas dû exister et qu'ils ont réussi à faire imposer justement en disant bah c'est bon vous avez Amazon. Donc limite ça a été contre-productif sur ce côté-là parce que si
c'est
personne
Amazon qui a imposé le confinement.
Non, mais ils l'ont utilisé comme imagine qu'il y avait eu aucun service de livraison, ils auraient pas pu confiner les gens chez eux, il aurait bien fallu que les gens sortent, tu vois.
Oh ça j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal mais
bah, ils auraient dit OK, vous mourrez de faim à la maison. Bah non, tu vois, évidemment qu'il aurait fallu que les gens sortent, tu vois. Donc là, les gens, ils se sont moins rebellés contre le confinement, etc., en se disant, bah ouais, c'est bon, de toute façon, on peut tous faire livrer à la maison. Donc limite, ça a été contre-productif sur ce coup-là. Donc c'est des mauvais exemples. Ouais, et encore une fois, peu importe. Et là, la phrase qui dit sur les impôts. Non, mais peu importe, vraiment, parce qu'encore une fois, je ne trouve pas que son discours il est intéressant. C'est plat et vague.
En gros, son point principal, et je te montre le deuxième extrait.
Sur les impôts, je ne comprends même pas ce qu'il veut dire.
En gros, un entrepreneur privé, il apporte plus qu'une offre caritative à la société. Mais je te laisse écouter le deuxième.
Bah, ça dépend. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend des offres caritatives et ça dépend des entrepreneurs privés.
C'est là où on a un avis différent. Je te laisse écouter.
Écoute.
En réalité, nous avons un problème de dépenses et c'est un problème de compétences. Je veux dire, laissez-moi vous donner un exemple. Le système scolaire de la ville de New York dépense 44 000 $ par élève. 44 000. C'est 30% de plus par élève que dans d'autres grandes villes comme Chicago,
exactement,
Los Angeles et Boston. Et c'est trois fois plus qu'à Miami et Houston. Et d'ailleurs, New York n'obtient pas de meilleurs résultats. Si nous gérions Amazon comme la ville de New York gère son système scolaire,
c'est vrai,
vos colis mettraient 6 semaines à arriver. Nous serions obligés de vous facturer 100 dollars de frais de livraison. Et quand le colis finirait par arriver, il contiendrait de toute façon le mauvais article.
C'est vrai.
Voilà la deuxième partie de ton extrait.
La deuxième partie est plus intéressante déjà, tu vois. Parce qu'il parle de ça, c'est tout à fait vrai que la dépense publique, elle n'est pas liée aux résultats, etc. C'est tout à fait vrai. Mais moi, je veux revenir sur ce que tu as dit. Tu as fait une généralité en disant un entrepreneur privé, c'est toujours mieux qu'une œuvre caritative. Sans condition. Moi, j'ai dit, ça dépend des entrepreneurs et ça dépend des offres caritatives. Toi, tu penses qu'une entreprise privée, c'est toujours mieux, toujours plus utile qu'une offre caritative.
Non, mais c'est les gains de productivité, la création de richesse par l'entrepreneuriat qui permet ensuite de faire des offres caritatives. Mais à choisir.
Mais ça veut pas dire.
Il vaut mieux une société avec 100 entreprises qu'une société avec 100 offres caritatives. Ça n'aura aucun
d'accord.
sens.
C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'est pas la même chose de dire. Les entreprises, les offres caritatives ne fonctionnent que par l'argent qui est généré par les entreprises. Donc, en gros, sous-entendu, il faut travailler pour pouvoir faire du bénévolat. Ben oui, c'est évident, ça, là-dessus, l'eau, ça mouille, on est d'accord. Mais c'est pas ça, c'est pas la même chose que de dire une entreprise privée est toujours plus utile à la société, de façon indépendante, toujours plus utile à la société qu'une offre caritative. Il y a des entreprises privées qui sont néfastes et qui la richesse qu'elles génèrent, ça n'efface pas entre guillemets le côté néfaste qu'elles ont pour la société ou neutre ou pas assez pour être plus utile qu'une œuvre caritative. Ben oui, mais tu vois.
Eh ben mais oui, non, parce que c'est comme si je te disais. C'est comme si je te disais les chrétiens sont des meilleures personnes que les musulmans. Ok, il y a des exceptions.
C'est pas ça. Non, mais c'est pas des exceptions, encore une fois. Il y a deux choses que tu as. Non. Je pense que tu confonds deux notions. Tu as dit. En fait, tu as mélangé deux discours. Tu as eu un discours. Tu as un discours où tu dis. Les œuvres caritatives, elles ne peuvent pas exister s'il n'y avait pas des gens pour générer de la richesse.
Oui.
Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire, et c'est quelque chose que tu as dit, je pense qu'une entreprise privée, elle est toujours plus utile à la société qu'une œuvre caritative. Tu n'as pas dit, c'est pas la même chose ça, tu comprends bien.
Non, je n'ai pas dit toujours. Hein.
Bah si, c'est ce que tu as dit justement.
Ah non,
t'as dit une entreprise privée, elle sera toujours plus utile à la société qu'une œuvre caritative. Et moi, je t'ai dit, ça dépend des entreprises et ça dépend... des œuvres caritatives et t'as dit bah alors c'est là qu'on n'est pas d'accord. Non mais tu peux demander aux gens, hein, c'est ce que t'as dit.
De toute façon moi ce que je pense,
moi je pense pas que par exemple l'entreprise Marc Dorcel elle soit plus utile à la société que les petits frères des pauvres, tu vois.
Mais moi
tu comprends. Voilà. L'économie elle fonctionne de manière générale avec l'argent il doit être généré pour pouvoir être dépensé dans des entreprises caritatives. Oui, bah c'est évident, mais c'est ça a rien à voir. C'est pas le même sujet.
Bah celle-là on est vraiment pas d'accord mec. Parce que pour moi une entreprise privée ça apporte plus de manière générale qu'une association, parce qu'une entreprise privée ça donne du travail, ça comble des besoins, alors qu'une association en général ça donne de l'argent, et une entreprise privée ça permet vraiment à une société...
Ça donne pas forcément de l'argent, ça peut combler des besoins,
oui,
une association.
Ça comble des besoins. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que avoir du travail ou c'est beaucoup mieux que de recevoir de l'argent d'une association.
Le problème, c'est que dans ce raisonnement, tu mets toutes les entreprises privées et toutes les associations. C'est-à-dire, tu n'as ce choix qu'entre du travail. Ben si, mais tu viens de le dire. Tu viens de dire, avoir du travail, c'est mieux qu'une association. Sous-entendu, oui. S'il y a des associations. Mais oui, mais on ne te demande pas de faire un choix. Personne ne dit.
Ah ben non,
personne ne dit.
Pas un choix non plus.
Personne ne dit.
Je te dis qu'il y a des choses qui apportent. L'entrepreneuriat, ça apporte plus à la société que les associations, même si les deux peuvent être très bien.
Mais ton critère pour dire que l'entrepreneuriat, ça apporte plus d'associations, c'est de dire que les associations, elles n'existeraient pas sans l'entrepreneuriat. Donc je suis d'accord. Mais tu comprends que dire l'entrepreneuriat et une entreprise privée, ce n'est pas la même chose. En fait, un coup, tu dis l'entrepreneuriat et la génération de richesse, et un coup, tu dis une entreprise privée.
Une entreprise privée, c'est forcément de l'entrepreneuriat.
Quand tu dis une entreprise privée, ça veut dire une au hasard. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai dit ça. Okay. Bah, une entreprise privée, c'est bien ce que tu as dit. Une entreprise privée, ça n'apporte pas toujours plus à la société qu'une association caritative. C'est pas vrai.
Oui,
l'entrepreneuriat, de manière générale, apporte plus à la société que les offres caritatives, de manière générale. C'est deux choses séparées. Mais
oui,
c'est
mais
pour
c'est,
ça.
C'est une façon de communiquer, c'est une généralité. Quand on communique, c'est toujours des généralités. Non, parce que tu sais, c'est un peu le même raisonnement que tu me faisais l'autre jour, que quand tu fais une généralité et que quelqu'un vient de montrer les exceptions, c'est parce qu'il a, en fait, on communique forcément avec des généralités.
Mais une généralité, c'est pas dire toujours. C'est ça le truc.
C'est ça. Mais non, je pense pas toujours.
Bah oui, mais tu l'as redit là avant. T'as dit une entreprise. Tu l'as redit. C'est pour ça que tu te rends pas compte de ta façon de dire les choses.
Mais c'est parce que j'aurais eu de manière générale avant.
Je te dis ça pourquoi ? Parce que tu te rends compte qu'il y a tellement de contre-exemples que tu vas te faire détruire en fait si tu dis ça. C'est si tu dis une entreprise privée, c'est toujours mieux que n'importe quelle association. C'est un point de vue d'enculé, tu vois, de dire une chose
pareille. J'ai jamais dit toujours mieux, c'est ça le problème.
Mais oui, je t'assure que tu l'as dit, tu vois.
Mais c'est là où on n'est pas d'accord. En tout cas, si je l'ai dit, c'est pas ce que je voulais dire.
Voilà, tu vois, regarde Pierre, c'est ce qu'il dit. Bah tu vois, c'est ce que les gens ont compris, regarde. Du coup, une entreprise privée avec des valeurs de gauche-centre est mieux qu'une asso qui prône la chrétienté. Tu vois, c'est comme ça que les gens ils l'ont compris. C'est pour ça que je nuance ton propos en disant ça dépend des entreprises, ça dépend des associations. Parce que les gens ils vont le comprendre comme ça. Qu'une entreprise, peu importe sa démarche, elle est toujours mieux qu'une association, peu importe sa démarche. Non, c'est pas ça. C'est l'économie fonctionne avec il faudra toujours plus. Il vaut mieux une société sans association qu'une société sans entrepreneuriat. Je suis 100% d'accord avec toi. De manière générale, l'entrepreneuriat apporte plus à la société que le bénévolat et les associations caritatives.
Voilà,
je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il faut pas, c'est il faut pas que tu singularises le truc en disant une société apporte toujours plus qu'une association, parce qu'il y a tellement de sociétés qui sont néfastes que non, c'est pas vrai. Et Amazon, typiquement, très probablement, enfin Amazon, c'est pas forcément la société qui apporte le plus à l'humanité, etc. Tu vois, faut pas exagérer sur ce sujet. Et quand on entend son discours au début, on a vraiment l'impression que le mec, il a un truc genre, il développe des vaccins ou il fait des trucs de fou.
Ça reste une entreprise
de livraison,
pour moi,
tu vois.
Pour moi, une aussi grosse entreprise comme Amazon.
Aujourd'hui, c'est sûr que c'est gigantesque. Donc, en
une aussi grosse entreprise comme Amazon qui crée autant de richesses, qui permet autant de gains de productivité, c'est ça d'accord. qui permet d'augmenter le niveau de vie de tout le monde, d'avoir accès à des meilleurs médicaments, à une meilleure alimentation, etc.
C'est pas lié spécialement aux services
qui
donnent. C'est lié au fait qu'il génère énormément. Tu vois.
Ah, mais moi, j'ai jamais focalisé sur le service en tant que tel.
Mais c'est lui, c'est son discours. C'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit le service qu'on donne et qui précise, tu vois. C'est pour ça que son discours
est bien
là-dessus.
Mais là où c'est intéressant, c'est qu'une entreprise privée, mec, pour faire rentrer de l'argent, elle comble forcément un besoin pour la société. Et quand les gens décident de payer pour avoir accès à ce service, à ce produit, c'est parce qu'il y a un vrai besoin qui est comblé selon eux.
Après, quand tu dis ça, le problème, c'est, moi, je comprends ce que tu veux dire, mais un besoin, il peut être aussi artificiel, il peut être surfait. Il y a pas forcément, c'est pas un besoin dans le sens nécessité. Ça peut être une envie. Une envie, c'est pas forcément un besoin. Il y a plein de secteurs comme le mien qui sont des secteurs où si on n'existait pas, entre guillemets, enfin bon, encore avec la conservation, c'est un peu autre chose. Mais il y a plein de secteurs du loisir qui en fait sont pas des besoins, tu vois.
C'est une très bonne chose que ça existe. Économique, mec.
Voilà, c'est une très bonne chose que ça existe.
Un besoin en termes économiques, ça peut être un besoin sentimental, un besoin émotionnel, un besoin de divertissement.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pas moi qu'il faut l'expliquer. J'essaie juste d'expliquer pour les gens qui regardent et qui en pointent de propos pour pas qu'ils te comprennent mal, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a pas un besoin dans le sens la société elle a pas besoin de ça pour fonctionner. C'est pas ça, mais c'est qu'il y a une demande en gros.
Exactement.
Voilà.
On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Parce que et là où c'est intéressant de le mettre en parallèle, mec, quand ensuite il fait une critique de l'État, une critique des services de l'État, c'est que, tu sais, quand t'as l'État qui supposément veut combler des besoins de manière arbitraire et centralisée, au final, il comble jamais vraiment des besoins.
Mais là, pour son exemple sur l'école, c'est tout à fait vrai. C'est qu'il montre que tu as un service d'école qui consomme beaucoup plus et qui coûte beaucoup plus cher, alors qu'ils n'ont pas de résultats. Spécialement plus élevé que des coûts qui coûtent beaucoup moins cher. Donc, s'il n'y a pas de lien entre la dépense et le résultat, et bah, c'est tout le problème du service public dans sa généralité.
Et ça va plus loin que ça, parce qu'ils décident de manière centralisée qu'est-ce qu'ils vont vous offrir pour combler vos besoins. Un peu comme quand l'État français il dépense 3 millions d'euros pour le rond-point de Béragne dans l'Aude, ou 20 millions d'euros à perte dans une piste de ski intérieur artificiel en Moselle, alors qu'on est à côté de vrais domaines skiables. Ou 4 millions d'euros dans le film panafricain de Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement, qui fait 6 spectateurs par séance. Est-ce que l'État comble vos besoins ? Non, il ne fait que dilapider votre argent. Vous pouvez appliquer ça à tous les domaines. La santé, les transports, la recherche, le tourisme, etc. Même dans l'éducation, comme il l'a très bien dit. Et je pense que c'est là où ça m'a fait réfléchir. C'est sur le fait qu'une entreprise privée, elle va combler des besoins auprès des individus, alors qu'un État, il ne peut pas connaître les besoins de tout le monde. Il dépense de manière centralisée pour tout le monde. Et donc, forcément, il dilapide de l'argent au lieu de laisser, les gens d'aller vers les entreprises qu'ils souhaitent. Est-ce que c'est clair ou moyen?
Non, bien sûr, c'est clair.
Tu m'as mis le doute sur ma clarté aujourd'hui.
C'est ce qu'on répète en boucle à tous les épisodes, hein, donc c'est clair.
Bah ouais. Et donc là, il parle de la dilapidation d'argent qui est inefficace. Et pourquoi est-ce qu'elle est inefficace? Et comme on le répète à chaque fois, mais je pense que c'est une conclusion intéressante, c'est qu'il n'y a pas de compétition et donc aucun incitatif à offrir de la qualité à bas prix pour l'État, contrairement à une entreprise privée dans un marché libre. Et ce qu'il a dit, mot pour mot, c'est « si nous gérions Amazon comme la ville de New York gère son système scolaire, vos colis mettraient 6 semaines à arriver et nous serions obligés de vous facturer $100 de frais de livraison. Et quand le colis finirait par arriver, il contiendrait de toute façon le mauvais article. » C'est une très belle analogie.
Ouais,
et maintenant, appliquez ça à la santé, à l'éducation et à tout ce que j'ai à
dire. Et c'est surtout un très bon contre-argument parce que quand les gens vont dire... Il y a des gens qui vont dire « Mais de toute façon, un État, ça ne se gère pas comme une société, donc ça n'a rien à voir. Le but, ce n'est pas de faire du profit, etc. » C'est tout à fait vrai, mais le but, c'est quand même d'avoir des résultats. Si le but, ce n'est pas le profit, le but, c'est le résultat. Donc, quand vous dépensez de l'argent dans le système scolaire, il y a un but de résultat qui est là, le niveau scolaire, etc. Si vous dépensez sans corrélation avec votre résultat, c'est un échec. Donc, dans un sens, si, bien sûr qu'un État, ça se gère comme une société, simplement, au lieu de chercher du profit, vous cherchez du résultat. Donc, le minimum de dépenses possible pour le maximum de résultats. Ou là où une société cherche le minimum de dépenses possible pour le maximum de profit, tout simplement.
Plus une société, elle offre de résultats, plus elle a de fric, plus elle a de clients qui veulent travailler avec elle.
Oui, bien sûr.
Le résultat final
du système scolaire, c'est juste le résultat scolaire pour un système scolaire public.
Mais je pense que pour une entreprise privée, c'est aussi le résultat final. Une école privée.
Non, le résultat final, tu l'as dit. Le résultat final, c'est que comme ils ont du résultat dans le truc scolaire, il y a des gens qui veulent travailler avec eux et donc ils font du profit.
Ouais, mais leur mission, c'est d'offrir
Jeff Bezos,
la meilleure.
Jeff Bezos, il en a.
Leur mission, c'est d'offrir la meilleure éducation possible pour avoir le plus de clients possible.
Je pense que l'explication, elle est claire entre la différence. Non, mais bien sûr, parce qu'une société, gros, elle veut faire de l'argent, point. Le service, la qualité du service, dans le but de faire de l'argent. C'est pas dans le but de rendre les gens heureux.
C'est directement corrélé.
Sans déconner, oui, bien sûr. Mais le résultat final d'un système scolaire public, c'est qu'il n'y a rien derrière. Donc, c'est vraiment juste le résultat scolaire. Donc, la comparaison entre... l'engagement financier d'une entreprise et son résultat sur le chiffre d'affaires, elle doit être faite. Quand on dit on ne peut pas faire cette comparatif-là avec avec un système public. Si, bien sûr qu'on peut le faire. Il faut simplement remplacer le chiffre d'affaires par le résultat dans le domaine. Donc, quand c'est la sécurité, typiquement, c'est juste est-ce que c'est safe, quoi ? Combien d'argent on engage pour combien on a de résultats en termes de baisse de la criminalité, etc. Donc, les gens qui vont vous apporter un argumentaire en mode non, ça ne se gère pas comme une entreprise, bah, ce n'est pas vrai. Et la preuve en est, c'est que là, le système scolaire de New York, il coûte beaucoup plus cher pour les mêmes résultats, et bah, donc c'est que ce n'est pas bien géré. C'est aussi simple que ça. Et là, pour le coup, on peut très bien avoir une gestion d'entreprise sur le sujet. Si vous dépensez plus dans votre entreprise et qu'en vérité, vous faites le même chiffre d'affaires qu'avant, c'est que c'est mal géré. Et donc, dans un système scolaire, si vous dépensez plus alors que vous avez le même résultat scolaire que le système scolaire quand il dépense moins, c'est que c'est mal géré. Donc, la comparaison, elle se fait.
Oui, c'est tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais pas bien saisi. Et tout à fait d'accord. Et en plus, le truc, c'est que tous les fonctionnaires ou les dirigeants dans le public, ils n'ont pas cet incitatif qui est essentiel, c'est la compétition.
Bah
qu'il
n'y
a pas cette compétition, bah ils ont pas à faire mieux à un meilleur prix.
Bien sûr, tout à fait.
On ferme le cycle une entreprise privée, elle doit forcément combler un besoin. Si les gens acceptent de lui filer son fric, besoin au niveau économique, contrairement au public qui, eux, n'ont même pas besoin de réellement combler un besoin, qui peuvent juste se faire plaisir, parce qu'au final, ils ont l'argent illimité grâce à l'extorsion.
Tout à fait.
Parfait. Bah écoute, mec, je suis peut-être pas très clair aujourd'hui, excuse-moi. on vous parle. Est-ce que tu veux me rajouter quelque chose ou on passe au prochain sujet ?
Non, il reste 5 minutes, donc.
Ok, on va faire vite alors, parce qu'en vous parlant d'argent dilapidé par l'État, là, on a un cas d'école dans l'actualité, dans le domaine de l'écologisme politique. Il y a 3 ans, élu industriel et ministre célébraient à grand renfort de discours la naissance d'un champion européen de l'hydrogène. Aujourd'hui, les salariés de cette entreprise française, Symbio, comptent les licenciements et les contribuables les centaines de millions d'euros engloutis. Cette société spécialisée dans les piles à combustible hydrogène a bénéficié de plus de 350 millions d'euros d'aide publique en 2 ans, dont plus de 312 millions validés dans le cadre du programme européen PIIEC consacré au projet industriel stratégique. Ces fonds devaient permettre à la France de bâtir une filière hydrogène capable de rivaliser avec les géants asiatiques et américains. Mais la réalité industrielle s'est révélée peu glorieuse. Symbio prévoyait de produire 16 000 piles à hydrogène. L'entreprise n'en aurait finalement fabriqué qu'environ 680, selon le journal Le Monde. L'objectif avancé à moyen terme tablé sur la livraison de 50 000 unités annuelles. Entre-temps, la spectaculaire Gigafactory, inaugurée à Saint-Fons près de Lyon, est devenue le théâtre d'un plan social massif. Sur environ 510 salariés, 358 postes doivent être supprimés, soit près de 70% des effectifs. Tout ça avec l'argent de l'État, évidemment. D'ailleurs, le groupe automobile Stellantis était entré au capital de Symbio à hauteur de 33%, mais le constructeur automobile a finalement abandonné le projet, jugeant les perspectives économiques du marché de l'hydrogène insuffisantes.
Ouais, donc lui, alors que
Symbio devait consacrer près de 80% de sa production au groupe automobile. Donc, autant te dire que c'est un gros fiasco.
Non, mais... Et puis, surtout, encore une fois, il y aura quoi comme...
Rien.
Quelles sont les conséquences ? Aucune, quoi. Voilà. Ah oui. Donc, on a investi l'argent massif des gens sans leur demander leur avis dans des projets où pourtant des gens du secteur ont dit que c'était pas porteur. Et voilà. Et finalement, ça s'est cassé la gueule. Quelle surprise. Et maintenant, bah, voilà, on a que nos yeux pour pleurer. On va faire comme si tout ça n'avait pas existé, globalement. Ouais. Personne va vous en parler. Il n'y a pas le président qui va faire un discours en disant « Désolé, je me suis trompé. » Voilà. Non. C'est bon, on fait comme si de rien n'était, on efface l'ardoise et on recommence.
Ah oui, 350 millions dilapidés, je vous imaginez ce que ça représente.
Voilà. Pour des trucs que personne n'a voté et tout va bien, quoi.
Bah ouais, et en plus, comme le dit le site Contribuable Associé, ce fiasco illustre surtout une mécanique désormais rodée. T'as une technologie présentée comme incontournable qui bénéficie d'un puissant soutien politique au nom de la transition écologique et de la souveraineté industrielle. Et les pouvoirs publics ouvrent alors les vannes des subventions, les 350 millions pour ce cas-là, afin d'accélérer le développement. Les grands groupes privés réduisent ainsi une partie du risque financier encouru grâce à l'argent public. Bah ouais. Lorsque la rentabilité n'est plus au rendez-vous, ils tirent leur révérence. Voilà. Socialisme de connivence.
Voilà. Et après, tu vas voir les gauchistes qui vont dire « Ah, vous voyez, c'est pour aider les grandes sociétés parce que c'est un gouvernement ultra-libéral de droite. »
Alors que c'est du putain de socialisme de connivence, c'est fait avec l'argent extorqué aux Français. Voilà. 350 millions, je vous laisse imaginer.
Le marché, c'est tout l'inverse. Et voilà. Mais ouais. C'est encore une fois, c'est des gens qui n'ont jamais ouvert un livre d'économie, qui ne sont même pas capables de te donner la définition du socialisme ou du libéralisme. Enfin, c'est dramatique.
C'est l'enfer,
non, mais ils croient dur comme fer. En fait, pour eux, dès qu'il y a une société qui fait du profit, c'est libéral de droite. C'est aussi simple, c'est leur définition. Non, mais c'est leur définition. Ah ouais, ouais. Hein. Dès qu'il y a une grande boîte qui fait de l'argent, voilà. Dès qu'il y a une grande boîte qui fait de l'argent, c'est
capitalisme
égal. Oui, voilà. Dès qu'il y a une grande boîte qui fait de l'argent, ah bah c'est ultra libéral de droite. Non, non, en fait, désolé, non.
C'est la réalité, c'est que là, c'est les PME, mec. Les PME qui galèrent au quotidien.
C'est un truc étatiste. Bah oui, ah oui, bien sûr. C'est les entrepreneurs, les travailleurs qui payent leurs impôts, bien sûr. C'est ridicule.
Pour des projets politisés, mec, au profit de grands groupes copains avec l'État, c'est une aberration. Et mec, ça représente 250 000 SMIC net, ne serait-ce que cette dilapidation d'argent par l'État. 250 000 SMIC net. Mais encore une fois, tout le monde va oublier, ça passe comme une lettre à la poste.
Exactement. Mais oui, mais il y en a combien? Nous, on en parle de quoi? Mais c'est des centaines comme ça, et ça ne dérange personne. Ça peut continuer comme ça, et ça va continuer.
Et la réalité, mec, c'est que si ce projet-là, il était vraiment rentable, il y aurait des groupes d'investissement privés qui auraient investi, il n'y aurait pas besoin de l'argent de l'État pour ça. Et on revient.
Ah, mais ils attendent qu'il y ait l'État qui investisse. Comme ça, ils investissent qu'un petit peu, ils prennent la température, et quand ils voient que ça se casse la gueule, ah ouais, en fait, non, c'est bon, c'est de la merde. Et l'État, lui, ça ne se casse pas ses billes, tu vois.
Alors que si l'État n'avait pas investi, eux, ils n'auraient jamais investi dans cette merde.
Non, c'est trop risqué. Ouais, trop risqué.
Bah oui. Et donc, on en revient à notre discussion précédente. L'État, il peut par nature pas réellement combler des besoins, contrairement à ce qu'il prétend.
Non, et puis en plus, là, ils essaient même pas. Là, c'est des histoires d'intérêts privés qu'eux, ils ont, ils touchent des pots de quelque part. Hein. Oui. C'est pas genre, ah bon, on s'est trompé. Ouais, c'est ça, ça fait plusieurs fois.
Ah, mais le prétexte, c'est l'écologie et la souveraineté industrielle. Ah,
c'est le meilleur prétexte. C'est le meilleur prétexte.
Et donc,
la lutte contre les discriminations et l'écologie, c'est les deux prétextes. Tu peux faire tout ce que tu veux avec l'argent des gens, si c'est pour ça, ça va.
Voilà. Et le prétexte, c'est qu'on est en train de combler votre besoin d'écologie, votre besoin de souveraineté industrielle.
Oui. Vous ne savez pas, mais vous avez besoin, parce que vous allez tous mourir engloutis par les eaux, avec une comète, brûlés par le soleil, asphyxiés par les gaz à effet de serre. Ah bon, bah alors du coup, allez-y. Hein.
Eh ouais, mec, c'est horrible. Est-ce que tu vas réagir un petit truc, mec, en 30 secondes?
Non,
ce sera pour une prochaine fois, les gars. C'est la charge de la dette qui est une aberration. Ça permettra de.
Il faudra qu'on en parle dimanche prochain.
Ouais. De conclure tout ça, ouais. Et puis, merci beaucoup, mec. Je pense que le débat, même s'il était peut-être pas très précis, là, il doit quand même intéresser certaines personnes.
Oui.
Ces échanges entre le privé et les associations. Mais au final, je pense qu'on est d'accord, gros. C'est une question de sémantique.
Ah oui,
je
bien sûr.
Pas
bien
l'exprimer,
sûr.
Mais,
moi, c'est pour expliquer aux gens, etc., pour pas se prendre des critiques qui sont infondées, parce que je sais que c'est pas ce que tu penses.
Ah bah très bien, mec. Merci pour ça. Merci à tout le monde. TexasJerky.fr.
JerkyTexas.fr.
Ah putain, ça à l'envers. JerkyTexas.fr, leguiz.com, nos descriptions. Dans la description, vous retrouvez les liens de nos Patreons et de tout le reste. À la semaine prochaine, les gars. Ciao.
À bientôt. Ciao.